Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une histoire complètement folle. L'enlèvement en 1975 à Paris du patron de la maison de disques Phonogramme, Louis Hazan, qui va se terminer par l'arrestation d'une bande de pieds nickelés. Et si je peux vous raconter cette histoire dans les détails, c'est grâce au livre de deux flics de la crime à l'époque, Claude Cancès et Jean-Pierre Birot, qui signent l'affaire Hazan aux éditions Marais. Et Claude Cancès, qui depuis a été le patron du 36 Quai des Orfèvres, sera là tout à l'heure pour le débrief. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire débute à quelques heures du réveillon 1975, le 31 décembre 1975, vers midi, à la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres. Ce soir, c'est le commissaire Claude Cancès qui est de permanence et il espère passer un bon petit réveillon pépère. Compte là-dessus et bois de l'eau, Claude. Hé, hey, Claude, c'est toi qui es de perme ?
Bah oui, en principe.
Eh ben, je crois que ton réveillon est à l'eau, Claude. Figure-toi qu'on vient d'enlever le PDG de Phonogramme.
Oh merde.
Au quatrième étage du 36, ça court déjà dans tous les sens. Cancès embarque l'inspecteur divisionnel Michel Carbois, qui est à la tête d'un groupe de 5 à 6 inspecteurs, et l'inspecteur principal Jean-Pierre Birot, qui est le procédurier, celui qui, dans une enquête, est chargé de mettre toute la paperasse recta. Bon, venez les gars, Papa Oscar veut nous voir. Papa Oscar, c'est le surnom du patron de la crime, c'est rapport aux initiales de son nom, le commissaire Pierre Ottavioli. Il règne sur la légendaire brigade criminelle de Paris. Bon, la victime s'appelle Louis Hazan, 53 ans. C'est le PDG donc de la maison de disques Phonogramme. Il a été kidnappé à 11h15 tout à l'heure, en pleine réunion du comité de direction, par un commando de 6 individus armés. Ils l'ont bâillonné, ils l'ont mis dans une malle en osier, d'après ce qu'on nous a dit, pour le sortir. Et ils ont aussi emmené le directeur financier de Phonogramme, qui s'appelle Daniel Vergne. Ils les ont collés dans une estafette Renault bleue et dans une Audi rouge. Et ils ont relâché Vergne quelques 300 mètres plus loin. Voilà, vous savez tout. Au boulot, les gars. Cancès, Kerbois et Birot descendent les marches du 36, 4 à 4. Ils embarquent dans leur Renault 12 et ils foncent sur place au siège de Phonogramme dans le 13e arrondissement. Et moi, pendant qu'ils sont en route, je vais en profiter pour vous affranchir sur l'homme qui vient d'être enlevé, Louis Hazan. C'est le producteur des plus grandes stars de l'époque. Nana Mouskouri, Georges Brassens, Johnny Hallyday, Enrico Macias et Serge Gainsbourg. C'est lui. Cancès et ses hommes arrivent sur place à 13h et les employés leur racontent.
La porte s'est brusquement ouverte sur 6 individus qui étaient à visage découvert, sauf l'un qui semblait être le chef. Ces 6 individus ont bâillonné et ligoté la quasi-totalité du conseil de direction de la société et ont demandé à Louis Hazan de s'installer dans une malle en osier. La malle en osier était transportée dans une estafette.
Donc, d'après les témoignages des employés, ils étaient tous vêtus de blouses bleues et tous armés, à visage découvert, sauf le chef. Et quand ils sont arrivés, ils ont prononcé deux phrases. Point. Lequel d'entre vous est Louis Hazan ? On vient pour le solde. Ce que ça veut dire, ça pour le moment, c'est un mystère. Ah ! Un truc que les employés présents racontent tout de suite. Ben là, la porte par laquelle ils sont sortis. Nous, on la connaissait pas. C'est vous dire, ils connaissaient les lieux mieux que nous. Ça peut vouloir dire qu'ils avaient un complice dans la place. Et pendant ce temps-là, au 36, on s'active. Et on réalise que depuis 3 mois, le 3e cabinet du 36, qui est chargé des escroqueries, travaille sur une affaire qui touche la société Phonogramme. La maison de disques a porté plainte il y a 2 mois pour escroquerie. Quelqu'un qui avait imité la signature de Hazan, autorisant un virement de 3 600 000 francs. Et les flics du 36 s'aperçoivent aussi que 10 jours plus tard, Phonogramme a été victime d'un attentat à l'explosif. Sans lendemain, hein, on n'a jamais retrouvé les auteurs. Mais ça peut être lié, tout ça. Je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun rapport. Bon, ben, maintenant, ils vont sans doute appeler pour réclamer une rançon. Et par précaution, au cas où on voudrait la lui faire à l'envers, Cancès décide de placer tout le monde sur écoute. C'est-à-dire Phonogramme, et bien sûr le domicile privé des Hazan, rue Montalembert, dans le 7e. Bon, maintenant, ben, il n'y a plus qu'à attendre. Le 1er janvier, à 15h20, Lacrim intercepte un appel des ravisseurs au domicile des Hazan. C'est la femme de Louis Hazan, Odile, qui décroche. Mais le numéro 2 de chez Phonogramme, Jacques Caillard, prend vite le combiné.
Monsieur Caillard, rendez-vous dans 30 minutes à l'hôtel PLM du boulevard Saint-Jacques.
Mais Caillard se garde bien, bien sûr, de prévenir les poulets. Mais ils sont au courant grâce aux écoutes. À l'hôtel PLM, à 16h50, Caillard reçoit un nouvel appel.
Vous allez préparer une somme de 15 millions de francs et la porter demain à 14h30 à l'hôtel Roblin. Si la police est prévenue, Hazan sera exécuté et des bombes seront déposées dans les lieux publics et des représailles seront exercées contre les dirigeants et les familles de Phonogramme.
À partir de là, la famille Hazan et Phonogramme décident de la jouer franco avec Lacrim. Le soir même, à 20h, tout le monde se retrouve chez le patron du groupe Philippe Siemens, qui est propriétaire de la maison de disques. Il y a là tout le gratin de chez Phonogramme, le patron du 36, Pierre Ottavioli, et Caillard, le numéro 2, qui raconte sa journée, les deux coups de fil des ravisseurs et la demande de rançon de 15 millions de francs. Ils m'ont demandé de la remettre demain, à 14h30, à l'hôtel Roblin. Ottavioli, qui sait déjà tout ça grâce aux écoutes, joue l'étonné.
Vous avez eu un contact avec les ravisseurs et vous ne nous avez pas prévenu. Je vous le dis, si vous faites tout dans votre coin, on va droit à la catastrophe. Si Phonogramme ne fait pas confiance à Lacrim, les ravisseurs n'ont plus qu'à se servir directement dans le coffre.
Le PDG de Philippe Siemens tente de rattraper le coup.
Calmez-vous, monsieur Ottavioli. Je m'engage personnellement à suivre à la lettre vos instructions. Je vous écoute. Bon, voilà ce qu'on va faire. Le commissaire Cancès remplacera Jacques Caillard pour la remise de la rançon, d'accord? Il se fera passer pour un collaborateur de Louis Hazan. C'est d'accord, monsieur le commissaire.
Ottavioli, évidemment, a l'intention de faire du saute dessus, comme on dit, c'est-à-dire d'interpeller les ravisseurs au moment de la remise de la rançon. Le jour J, le 2 janvier, le commissaire Cancès monte dans la Ford Granada de Louis Hazan et il se rend tout droit à l'hôtel Roblin. Avant ça, il a récupéré deux gros sacs de jute à la Société Générale. Dedans, il y a 15 millions de francs en vrai bifton. À l'hôtel, rien ne se passe. Au même moment, les ravisseurs appellent Madame Hazan chez elle.
Prévenez Jacques Caillard d'être chez vous demain à 13h.
Et là, eh ben, qu'est-ce qu'on fait des deux gros sacs bourrés de bifton? Figurez-vous qu'ils vont dormir dans la petite cuisine de l'état-major de la crime. Ce soir-là, à nouveau, Cancès, Ottavioli et tout le gratin de Phonogramme se retrouvent comme la veille chez le PDG de Philippe Siemens. Le commissaire Ottavioli mène la danse.
Donc nous sommes d'accord. Il faut exiger la preuve que Louis Hazan est toujours en vie. N'est-ce pas?
Absolument, monsieur le commissaire.
Donc, monsieur Caillard, comme les ravisseurs ont exigé votre présence demain à 13h au domicile des Hazan, c'est vous qui répondrez. Et je compte sur vous pour leur demander ces preuves de vie.
Ils avaient dit 13h, mais finalement le téléphone sonne beaucoup plus tard, à 16h25. Et c'est Caillard, le numéro de chez Phonogramme, qui décroche, comme convenu.
Nous sommes très mécontents. Nous avons repéré la police hier.
Écoutez, on aimerait juste avoir la preuve que vous détenez bien Monsieur Hazan.
Allez dans la cabine téléphonique de l'arrêt d'autobus en face du restaurant Le Sully, Porte d'Auteuil. Vous y trouverez une lettre d'Hazan. Nous rappellerons demain à 13h.
Autant vous dire qu'immédiatement, Cancès envoie des hommes pour surveiller la cabine. Et Cancès arrive sur place à son tour. Bon les gars, vous n'avez vu personne ? Ben non, patron. Non, personne. Dans la cabine, Cancès récupère deux lettres. La première contient un message de Louis Hazan à ses collaborateurs. Elle est datée du 2 janvier et dedans, il les supplie de verser la rançon et de ne pas prévenir la police. La deuxième enveloppe est adressée à sa femme Odile. C'est un message rassurant. Et là, il n'y a pas quelque chose qui vous fait tiquer ? Enfin, réfléchissez. Puisque les flics en planque devant la cabine n'ont vu personne. C'est que les deux lettres étaient déjà là quand Caillard au téléphone a exigé des preuves de vie. Comment les ravisseurs savaient-ils qu'on allait leur demander ces preuves ? Vous vous souvenez que cette décision a été prise la veille chez le PDG de Philippe Simas. S'ils savaient, c'est qu'ils ont un complice qui était présent à cette réunion. Quelqu'un de l'état-major de Phonogramme, forcément, qui leur a donc filé le tuyau. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ils ont quelqu'un dans la place. Ensuite, les policiers se font balader plusieurs fois, des attentes interminables, des rendez-vous annulés, plusieurs fois. Et tout ça jusqu'au mardi 6 janvier 1976. Le 6 janvier, vers 7h30, Ottavioli réunit dans son bureau la crime et l'anti-gang. Bon, ça fait 6 jours qu'Hazan a été enlevé, et à mon avis, les ravisseurs ne vont pas tarder à conclure. Dès la remise de la rançon, on leur saute dessus. Ah oui, mais patron, s'il y a une prise d'otage, il n'y aura pas de prise d'otage. Mais on sera peut-être amené à tirer, patron. Alors on tirera. Ite missa est. Alors, voilà le plan. Cancès et l'inspecteur divisionnel Bernard Pire, de l'anti-gang, vont se faire passer pour deux collaborateurs d'Hazan. Selon les dernières instructions des ravisseurs, ils vont livrer la rançon avec la Ford Granada de Louis Hazan. Sauf que cette fois, on va pas prendre de risque. Dans les sacs de jute, on va mettre de vieux bottins à la place des bifetons. À 9h30, Cancès et l'inspecteur Pire, à bord de la Ford, prennent position devant le point de rendez-vous, c'est-à-dire le siège de Phonogramme. Et ils attendent. Les ravisseurs appellent plusieurs fois le siège pour des messages sans grand intérêt. Nouvel appel à 16h30.
Voilà. Maintenant, pour tous les entretiens que nous aurons, notre code sera Francis. D'accord ?
D'accord. Dans l'après-midi, nouvel appel. Direction les Champs-Élysées, l'Étoile et la place Pereire. Pour rien. Mais c'est l'occasion de récupérer dans une consigne de la Gare du Nord un nouveau message de Louis Hazan. Il est indispensable que vous remettiez les fonds, mais sans prévenir la police. Dans la soirée, nouvel appel des ravisseurs. C'est le directeur financier Daniel Vergne qui décroche.
Allô ? Monsieur Vergne, ici Francis. Votre président est physiquement très fatigué. Bon alors, vous allez faire le plein d'essence, hein, complet. On va aller très loin. Et d'abord, vous allez vous rendre à la Bastille, à la Tour d'Argent. Tâchez d'y être au plus tard à 8 heures. Là-bas, je vous appellerai pour d'autres directives. Je ne veux aucun ennui. Pas de filature, hein. Rien du tout, vous m'avez bien compris. N'est-ce pas ?
Oui, oui, oui. Et les sacs ?
Sur la banquette arrière de la voiture.
À 19h35, Cancès se gare devant le restaurant La Tour d'Argent, place de la Bastille. L'inspecteur Pire entre dans le restaurant. et il attend l'appel des ravisseurs. Il en ressort une heure plus tard.
Bon, il m'a dit de faire plusieurs fois le tour de la place avec la Ford. Vas-y, démarre. Maintenant, tu te gares contre le terre-plein central, là. Ouais, côté rue Saint-Antoine. Voilà. Bon, ben, je descends avec les sacs et j'attends leur bagnole. Et toi, tu vas te garer un peu plus loin.
Et là, une 4L bleu ciel s'approche de l'inspecteur Peer. À l'intérieur, il y a deux hommes cagoulés qui s'arrêtent près des sacs.
Et là, ça va très vite. Comme convenu, Peer balance les sacs. Et dans toutes les voitures banalisées alentour, on entend l'ordre de Broussard de l'anti-gang.
Allez, on saute, on saute!
Et là, bim! Une voiture de l'anti-gang percute la 4L dans un effroyable bruit de tôle froissée. Et en même pas deux minutes, les deux types cagoulés se retrouvent allongés au sol et menottés. Direction le 36. Les deux gars sont des frères. Didier et Dominique Pêche, 26 et 23 ans. Des petites frappes connues des services de police. L'interpellation a été assez musclée, le plus jeune file à l'hôpital. Et c'est donc l'aîné Didier qui est cuisiné le premier. Et là, l'affaire prend un tour tout à fait inattendu. Car figurez-vous que le gamin est un facho. C'est un militant actif du PFN qui est un groupuscule d'extrême droite partisan de l'action violente. Et ça, l'inspecteur Biro qui l'interroge le savait déjà par les renseignements généraux.
Bon, dis-moi, les RG t'ont vu plusieurs fois avec un certain Daniel Moschini, habitant à Saint-Maur. Ça te dit quelque chose ?
Ok. Ok, bon. Si j'étais place de la Bastille pour la rançon, c'est parce que votre... Daniel Moschini, là, nous on l'appelle Miguel, mais peu importe. Miguel m'a proposé un gros coup. Je l'ai rencontré il y a 3 mois à l'Ordre Nouveau. C'est un parti d'extrême droite, quoi. Donc, tu as participé à l'enlèvement?
Bah ouais, ouais. Avec mon frère. Et puis Miguel, et puis Francis, et puis... deux gars que je connais pas.
Et Miguel, tu sais où il crèche?
Il crèche rue Béchasse, à Saint-Maur. Je connais pas le numéro, mais je peux vous emmener si vous voulez.
Ce qu'il fait, les flics installent une souricière devant la maison du susdit Miguel. Et ils attendent 6 heures du matin, l'heure légale. Pendant ce temps-là, Didier Pêche est ramené au 36 et son audition reprend.
Je vous ai dit tout ce que je savais. Tes autres complices, je les connais pas. Où est Louis Hazan? Je sais pas.
À 6 heures pétantes, Daniel Moschini, alias Miguel, est arrêté chez lui. Direction lui aussi le 36. Et pendant ce temps-là, l'interrogatoire de Didier Pêche se poursuit. Il est lessivé. Alors il craque.
Ok, ça va, ça va. Je vais vous donner le nom du vrai cerveau de l'enlèvement. Et je vais vous dire toute la vérité. C'est un certain Hugo Brunini. Je crois, il habite chemin des Vignes, à Garches.
On y est. Il n'y a plus qu'à dérouler la pelote.
Bon, voilà. C'est Brunini qui a demandé à Miguel de constituer une équipe d'action. C'était 3 semaines avant le rap. Et Miguel, il m'a chargé de recruter cette équipe. Et moi, j'ai pensé à mon frère Dominique, à mon père Marcel, on le surnomme Francis, et puis à 2 amis, un Jean-Michel et un Serge.
Il raconte tout. Par exemple, comment il a acheté la malle à la Samaritaine le matin même de l'enlèvement. Et il balance toutes les adresses, celle de Brunini et celle de son propre père. Mais
il est détenu où, Louis Hazan? Ça, je vous jure, je ne sais pas.
Le lendemain, 7 janvier, le dénommé Francis appelle les Hazan à 11h10. C'est Madame Hazan qui décroche. Et l'objet de l'appel est assez surprenant.
Votre mari a des problèmes de digestion. Il faut publier dans la presse la liste des médicaments qu'il doit prendre.
Comment va-t-il ?
Il sera libéré lorsque les deux frères Pêche pourront quitter le 36. Et s'il n'y a rien de nouveau dans 48 heures, je vous préviens, il sera transféré à l'étranger.
La suite est assez surréaliste. Le médecin de Louis Azan répond à la question des médicaments sur Europe numéro 1.
Je voudrais leur dire que Monsieur Azan prend chaque jour 4 à 6 comprimés, je répète 4 à 6 comprimés à croquer d'acidrine, acidrine, A-C-I-D-R-I-N-E pour l'estomac, ainsi que 2 ampoules par jour, matin et soir, 2 ampoules de norbiline, N-O-R-B-I-L-I-N-E.
On a compris. On a compris. Au 36, on continue de cuisiner Moschini. Où est Louis Azan ? Mais toujours pas de réponse. Alors le commissaire Cancès va voir le patron, le commissaire Ottavioli, qui déboule comme une tornade dans le bureau où Moschini est interrogé. Et là, il arrache le procès-verbal de la machine à écrire. Bon, on va pas y passer la nuit, d'accord ? Tu vas nous dire où se trouve Louis Azan. J'écoute. La scène qui suit est surréaliste. Moschini relève le bas de son pantalon et il inscrit un numéro de téléphone sur sa jambe droite. 32 58 36. Il manque l'indicatif, hein ? Je le connais pas. Mais je sais que c'est dans la banlieue parisienne. Le numéro correspond à une maison isolée de Tremblay-les-Villages, dans l'Eure-et-Loire, au nord de Chartres. Rue de la Chardonnière. Et ça, c'est le territoire de la PJ de Versailles. La crime les informe immédiatement. Et pendant ce temps-là, une équipe de la crime fonce vers le village, mais c'est à une bonne heure et demie de route de Paris. Alors pendant ce temps-là, à Versailles, le commissaire Georges Moréas tente de recruter une équipe pour aller sur place. Mais problème, il y a du foot à la télé.
Tire du pied droit. Oh,
arrêtez, patron. C'est sans doute un tuyau bidon, hein. Bah, si c'était solide, les seigneurs du 36 nous auraient pas sonné, hein.
L'arquet, il faut frapper, boum.
Mais le sous-chef du SRPJ, André Brémond, dit Mémé, réussit à constituer une petite équipe qui fonce sur place. En route, ils reçoivent un message radio.
Vous n'intervenez pas, hein. Je répète, vous n'intervenez pas. Ordre de la préfecture de police. Pour l'instant, vous surveillez juste les lieux. Je répète une dernière fois, vous n'intervenez pas.
Et donc à l'arrivée, il se positionne à 100 mètres de la maison. C'est une grande bâtisse au milieu d'un parc, éclairée par la lune. Et ils attendent, jusqu'à ce que le patron de la PJ de Versailles, Moréas, décide de lancer l'assaut.
Écoute, mais on peut pas rester en plan, il y a peut-être un homme en danger de mort. Bon, ok, allez, on y va.
Ils escaladent le portail, ils se faufilent dans le parc, et Moréas met la main sur la poignée de la porte, qui s'ouvre. Personne. Mais la télé marche en sourdine, et il y a encore 2 verres à moitié pleins sur la table. Et là, ils entendent un bruit léger, sourd. Alors ils sondent les murs. Ça sonne creux. Donc il y a quelque chose derrière la cloison. Alors ils la font sauter. Et derrière, à même le sol, sur un matelas, il y a un homme attaché par des chaînes, avec une cagoule noire sur la tête.
Vous êtes Louis Azan, monsieur ?
Oui.
On est de la police. Vous inquiétez pas, on vient vous libérer, vous êtes sauvé.
Les flics parisiens arrivent juste après la fête. Et ils ramènent Louis Azan au 36, où il retrouve sa femme, bien sûr, et ses proches. Et à 23h30, sous les flashs des journalistes...
Monsieur Azan, par ici, regardez-moi.
Azan, au bras de son épouse, descend le grand escalier de la crime. Et derrière les proches, dont la chanteuse Nana Mouskouri. « Pendant ce temps-là, dans les bureaux mansardés au quatrième étage, les gardes à vue se poursuivent. Et le patron reçoit un appel sur sa ligne directe.
Allô, patron ? Bon, ça y est, on vient de serrer Brunini à bord d'une Alfa Romeo devant le domicile de ses parents à Parly 2.
Eh ben voilà ! Le cerveau de cet enlèvement vient de se faire coffrer. Il ne manque plus que la taupe. Parce qu'il y en a une, hein ? Et Brunini se retrouve en garde à vue. Et on a appris depuis qu'il avait une société de nettoyage qui travaillait pour Phonogramme. Et on découvre que ses motivations étaient antisémites.
C'est moi qui suis l'organisateur de toute cette affaire. J'avais pas besoin d'argent, hein. Je voulais juste m'en prendre à un juif. Mais j'ai jamais eu l'intention de le supprimer. J'ai tenu à ce qu'il soit traité le plus humainement possible. Pourquoi est-ce que t'as recruté des gars de l'extrême droite ? C'est-à-dire que moi, je suis un homme de gauche. Et comme je refuse de porter préjudice à des gens de gauche, alors j'ai recruté des gens de droite, quoi.
Il fallait la sortir, celle-là. Et là, il balance le nom de Jacques Prévost, qui est l'homme qui a loué la maison. Qui s'avère être un sacré loustique, hein. C'est un ancien para en Indochine. Et il a été condamné à mort par contumace en 1963 pour sa participation à l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle. La crime finira par le coincer en Indonésie. Mais c'est pas fini, puisque Brunini est bavard, profitons-en.
C'est qui la taupe chez Phonogramme qui t'a renseigné ? J'ai jamais eu de contact chez Phonogramme, moi. J'ai juste été... amené à rencontrer Vergne, quoi. Normal, hein. C'est lui qui m'a donné le contrat pour le ménage.
Vergne ? Daniel Vergne ? Le directeur administratif et financier de Phonogramme ? Les flics de la crime l'interpellent le 19 janvier. Il est très nerveux. Il est très mal à l'aise. Et c'est lui qui prend les devants.
Je m'attendais à être interrogé par vous sur les relations que j'avais avec Hugo Brunini, qui est mon ami. Mais si vous imaginez que j'ai été son complice, ça non.
Mais 24 heures de garde à vue plus tard, il est mûr.
C'est d'accord, je vais tout vous dire. Je savais que Monsieur Hazan allait être enlevé. Et Brunini m'avait demandé mon aide. Il m'avait dit que c'était la mafia italienne qui avait demandé d'enlever Monsieur Hazan.
Le procès de toute la bande s'ouvre le 3 novembre 1980 devant les assises de Paris. Et je ne vais pas m'attarder sur ce procès. Parce qu'honnêtement, ce sont des pieds nickelés. Ils se renvoient la balle. Ils sont incohérents. On ne comprend pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Bref, ça ne va pas empêcher de les condamner. Brunini, le cerveau, prend 15 ans. Prévost, le geôlier d'Azan, prend 12 ans. Et Vergne, la taupe, 10 ans. Moschini, 10 ans. Et les trois pêches, 7 ans chacun. Mais quelle histoire de fou! Et qui de mieux pour débriefer cette histoire que Claude Cancès lui-même? Claude Cancès, vous avez été 35 ans au 36 Quai des Orfèvres jusqu'à en être le patron. Et c'est du livre que vous avez écrit avec votre adjoint de toujours, Jean-Pierre Birot, L'affaire Hazan aux éditions Mareuil, que j'ai évidemment tiré cette histoire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que votre livre regorge de détails que je n'ai pas pu tous reprendre. C'est une mine d'or pour qui s'intéresse à ce qu'était, à l'époque, une enquête de police. Commençons par la fin, Claude Cancès. Quelles étaient ou qu'avez-vous compris des motivations de ceux qui ont enlevé Louis Hazan et que j'appelle une bande de pieds nickelés ? Enlever un juif ? Vraiment ?
Absolument pas. Absolument. La motivation, c'était l'appât du gain, tout simplement.
Comme toujours ?
Comme toujours.
Les 15 millions ?
Alors, vous avez employé une expression que vous avez tirée peut-être de mon livre, et oui. qui est vraie, des pieds nickelés.
Oui.
Parce que cette affaire est le point de départ d'une série d'enlèvements qui vont défrayer la chronique pendant quelques années et qui se terminera par l'affaire
Rampin.
Et il se trouve que si cette équipe-là c'était pieds nickelés. Par la suite, c'est la fine fleur du banditisme français
qui va copier.
Voilà. Quand on revoit cette époque-là, on se dit encore un coup de chapeau à Pierre Ottavioli, le patron de la crime. À cette époque-là, l'enlèvement avec demande de rançon des grands patrons en Italie était devenu une industrie. Non seulement les rançons étaient payées la plupart du temps par les familles à l'insu de la police, mais une fois sur deux, on retrouvait un cadavre. Et Pierre Ottavioli, quand on connaît le personnage, a fait passer ce message très fort à sa double hiérarchie administrative, donc ministère de l'Intérieur, et judiciaire, le procureur de la République. Si on sait, dès maintenant, c'est fini, on se retrouvera dans la même situation que nos collègues italiens.
Donc et au départ, son idée est de leur sauter dessus.
On ne paye pas. On intervient au moment de la remise de rançon. Et toutes les affaires qui ont suivi l'affaire Hazan, jusqu'à l'affaire Impin, se sont toutes bien terminées.
Parce qu'ils ont utilisé cette méthode.
Les rançons n'ont pas été versées, à l'exception d'une, mais elle a été retrouvée par la suite au cours de l'enquête. Les malfaiteurs, c'est qui est le plus important,
ont été arrêtés.
Et l'otage était vivant. Et condamné. Et l'otage est vivant.
Alors, on reviendra sur l'opération plus tard. J'adore l'expression de Brunini quand il dit « Moi, je suis un homme de gauche, mais comme je refusais de porter préjudice à des hommes de gauche, j'ai recruté des hommes de droite. » Parce que c'était vraiment des néo-nazis, ces gars-là, quand même.
Ah, ils appartenaient au mouvement PFN. des partis des forces nouvelles, qui était un mouvement d'extrême droite. C'est incontestable. Je ne suis pas convaincu que les frères
Pêche
étaient vraiment des moteurs au sein de ce mouvement. Mais enfin, ils appartenaient à cette mouvance.
Quand Brunini dit qu'Hazan a été bien traité, est-ce que c'est vrai?
C'est vrai, il nous l'a dit. Vous savez, à un moment donné, vous avez lu ça dans le livre, les malfaiteurs, et Brunini en premier, ont essayé de convaincre le juge que c'était un auto-enlèvement. C'était tout à fait bidon.
Ça a toujours été un argument, ça. Hein, parce qu'on le retrouve chez le baron Empin, cette idée que pour récupérer du pognon de leur boîte, les types se font auto-enlever.
Voilà, ils sont complices. Quand on connaît le personnage, et Louis Hazan, je l'ai vu jusque quelques mois avant sa mort.
Vous gardez des contacts comme ça?
J'avais gardé des contacts avec lui. Quand mon premier livre est sorti, j'avais pas pensé à le lui envoyer, mais il avait acheté et il m'avait envoyé un petit mot me disant « j'aimerais bien vous voir ». Et par la suite, chaque fois que je sortais un livre, j'allais le voir et c'était un personnage. Il revivait encore avec cette affaire. Il avait plaisir à me voir pour
trouver quelqu'un qui savait ce qu'il avait vécu.
Voilà. Ouais. Et surtout, il tenait à rendre hommage aux flics et en particulier à celui qui est venu, Pierre Ottavioli.
Qu'est-ce que ça voulait dire finalement, on vient pour le solde?
Alors ça a été toujours
un mystère.
Un mystère parce que vous l'avez très bien dit, cette affaire des escroqueries n'a pas été solutionnée.
Les opérations antérieures n'étaient pas forcément liées à ce commando.
On n'a pas la preuve.
Si on reprend Claude Cancès, l'histoire au début, on voit que, comme dans d'autres affaires d'enlèvement, il y a la tentation de la famille et de l'entreprise de négocier directement sans passer par la police. Ça a été le cas cette fois-là aussi.
Ce qui est humain. Au tout départ, mais très vite, vous avez cité les deux réunions qui se sont tenues chez le grand patron, Philippe Simons. Il a compris, lui, tout de suite, qu'il fallait faire confiance à la police.
Mais pourquoi est-ce que les familles, au début, veulent essayer de régler ça tout seul?
Eh bien, la crainte de que
l'otage soit tué.
Eh oui, c'est ça.
Il y a un moment que vous racontez dans le livre, c'est au moment où vous arrêtez les frères Pêche, les deux, Madame Hazan pique une grosse colère le soir même à l'espèce de réunion que vous tenez tous les soirs. Elle vous accuse d'avoir mis en danger son mari.
Ça a été un petit miracle là, pendant 5 jours. Les médias, vous étiez au courant, mais pas de fuite. Pas de fuite.
Et puis, ça n'existerait pas, ça. Et pourquoi il n'y avait pas de fuite, d'ailleurs? Parce que c'était des potes, tous les journalistes, qui couvraient ça. Et donc, vous leur avez dit...
Il y avait au 36 un bureau où vous aviez des journalistes à vous, l'AFP, les Figaro...
Qui attendaient, donc on pouvait leur dire... Ne dites rien.
Oui, bien sûr. Mais le jour où il y a l'arrestation des frères,
ça
ne peut pas ne pas sortir. Et Madame Hazan, que je m'étais fait passer auprès d'elle pour, à la demande de Jacques Caillard, le directeur général, pour l'attaché de presse, si vous voulez, les relations publiques.
Du 36.
Et donc j'avais eu le contact avec elle pour la rassurer, etc. Et le jour où elle arrive au 36, on a arrêté les deux frères. On laisse lâchement Pierre Ottavioli dans son bureau, face à elle. Il y avait Nana Mouskouri, il y avait des gens du groupe. Et il en a pris plein la figure. Vous êtes un assassin, monsieur Ottavioli. Vous êtes... Et madame Ottavioli, avec son calme extraordinaire, madame, votre mari est en vie, on va le retrouver. Mais le décalage énorme entre cette soirée et le lendemain,
ou alors où elle se rend à la raison. Voilà. D'où l'idée, évidemment, de les mettre sur écoute, qu'on va retrouver dans toutes les affaires, d'ailleurs, qui suivent. C'est-à-dire la famille, ça, elle s'en doute pas. Mais immédiatement, elle n'est coupable de rien, hein, mais elle est sur écoute.
Bien sûr, bien sûr.
Pourquoi est-ce que vous prenez des vrais bifetons pour 15 millions de francs alors à l'époque, au lieu de prendre des faux bifetons, parce que c'est risqué, quand même.
Je vais vous dire, ça, c'était la première affaire. Et au tout début, vous savez...
On tâtonne.
On tâtonne, oui. Ouais. Et effectivement, c'est très malé au début avec la...
Avec 15 patates.
En sachant... Oui, alors en plus, il y avait quand même un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a eu, dès le début de l'affaire, la certitude qu'il y avait un complice. Mmh. Donc, vis-à-vis du complice... Il fallait qu'on ait des...
Ouais, mais enfin, avec des faux bistons, le complice aurait pu être convaincu. Ouais. Parce qu'ensuite, vous les avez sur le dos, c'est 15 millions de francs. Et on apprend à la lecture de votre bouquin qu'ils ont passé la nuit, au lieu de retourner au coffre de la Société Générale, dans votre cuisine.
Oui, les affaires, elles étaient bien gardées.
pas sûr. Il y a quelques scellés qui ont disparu depuis, vous êtes au courant. Alors, la stratégie de saute dessus, donc qui consiste à sauter sur les ravisseurs au moment de la remise de la rançon, elle est quand même extrêmement risquée. Est-ce qu'il n'est pas plus astucieux à ce moment-là, au contraire, d'essayer de les suivre pour aller jusqu'à la planque?
La logique, ce serait ça, effectivement. Oui.
Mais ce n'est pas celle d'Ottavioli.
Voilà. Ottavioli était persuadé que, à partir du moment où on détient, nous, les voyous, c'est, leur intérêt, ça va être de libérer la victime.
Oui, pour pas qu'il meure.
Exactement. Surtout que, n'oubliez pas, à l'époque, la peine de mort était encore en vigueur. Hein.
Oui. Alors, ce qui m'a surpris, c'est la facilité avec laquelle tout ce monde-là avoue. C'est-à-dire que Didier Pesch d'abord balance Miguel. Moschini est son propre père, tranquille. Moschini alias Miguel balance Brunini, Brunini balance Prévost. Est-ce que tous savaient où était Hazan, à votre avis?
Non, certainement pas.
Il n'y avait que Brunini?
Certainement pas. Oui, je pense qu'il n'y avait que Brunini et Jacques Prévost.
Oui, évidemment qui avait loué la maison. Ils craquent tous assez facilement en interrogatoire. Bon, est-ce que ce n'était pas l'époque où on avait des moyens de les faire craquer? Il n'y avait pas d'avocat en garde à vue à l'époque, hein?
Alors là, je vais vous faire un petit aveu quand même.
Oui, ils ont pris quelques coups d'annuaire.
Le trajet, d'ailleurs la presse en a parlé, il y a eu des échos à l'époque un petit peu.
Oui, parce qu'il est blessé le frérot.
Entre la place de la Bastille et le 36, c'est vite fait, il n'y a pas d'ordre. Enfin, je n'étais pas dans la voiture, mais les gens de la BRI, je pense, il y a quelques gifs qui ont dû se perdre. Mais, et ça je le dis dans le livre, vous arrivez à l'étage de la CRI, le procureur de la République, je peux citer son nom, qui était un type formidable, Rabu, qui avait suivi au 36 à l'état-major tout le trafic, attendait l'arrivée des deux malfaiteurs, des deux frères, et il a bien vu que l'un des deux frères, bon, il avait la gueule
un peu
abîmé,
quoi.
Et il s'est tourné vers le commissaire Ottavioli en lui disant, monsieur le commissaire, l'arrestation a dû être mouvementée, et là, il a dû se rebeller, ce type-là.
Sans doute.
Je peux vous dire que de nos jours...
Mais c'est pas possible de retrouver avec une accusation.
Et tout le monde se retrouvait à l'IGS.
Oui, ouais. L'interrogatoire, à l'époque, donc 75, c'était musclé, ou pas?
Si vous voulez, pour être très franc, moi je suis arrivé dans la police comme jeune inspecteur en 63, à la charnière, où il y avait encore quelques interrogatoires musclés, c'était la fin de la guerre d'Algérie, l'OAS, etc. Ouais. La chance, en tant que jeune inspecteur, c'est que chaque fois que l'interrogatoire allait un peu être musclé, le vieux flic me disait, toi, le monde va faire une vérif. Mais derrière la porte, j'entendais. Mais cette époque-là était...
Était déjà révolue en 75.
Oui. Et là, à la crime, vous savez, un bon dossier, il ne tient pas par les coups de matraque. Hein, il tient par le... Surtout maintenant, avec les moyens qu'on a. À l'époque, n'oublions pas qu'à l'époque, les fichiers des empreintes digitales n'étaient pas centralisées. L'ADN, le fichier des empreintes digitales, n'existait pas.
75, non.
Les portables n'existaient pas. Vous, les journalistes, comme les voyous, vous nous écoutiez. Vous étiez trop jeunes.
Bien sûr, on avait un scanner.
Voilà.
On avait un scanner dans toutes les rédactions. Oui, on écoutait les radios des flics.
C'était pas facile à travailler dans ces conditions. Une même affaire à l'heure actuelle, ce serait plus facile à traiter. Hein.
Plus facile à traiter. Ouais. Et, chose étonnante, à l'époque, en 75, on n'est pas capable de remonter la ligne téléphonique d'où appellent les ravisseurs. Il faut les faire parler longtemps pour, aux centrales des PTT, arriver à localiser l'appel. Et à aucune reprise, on n'y arrivait.
On a mobilisé un tas de personnel. D'ailleurs, on a toujours eu de bons rapports avec la direction des postes. C'était extraordinaire.
Alors, Daniel Vergne, qui est donc le directeur administratif et financier, qui est donc complice de toute cette bande-là et qui prend cher, hein, puisqu'il prend 10 ans. C'est quand même la grande surprise, parce qu'il est à très haut niveau dans le groupe Phonogramme. Pourquoi est-ce qu'il fait ça?
On n'a jamais compris. L'appât du gain, est-ce qu'il a été plus ou moins menacé? Mais enfin, on a eu du mal pour le coincer, le faire avouer. Hein, on avait des éléments, mais...
Il avait un compte à régler avec Louison?
Je ne pense pas.
Alors, évidemment, ce qui est en filigrane de cette histoire, c'est toute une époque, une manière de faire de la police. C'est-à-dire que, on vous dit, ils ont été enlevés, vous partez un tout petit groupe. Aujourd'hui, on partirait à 30 personnes. Là, vous partez à 3.
Oui, non, on part un petit groupe, mais très rapidement, tout le monde est mobilisé.
Pour rejoindre
là-bas. Tout le monde est sur le pont. Ouais. Hein.
Mais elle a changé la police entre cette époque-là et assez vite après.
Alors, vous savez, l'intérêt, à l'époque, on avait la chance, la BRI et la CRIM.
Oui, de travailler ensemble.
Travailler ensemble au 36 Quai des Orfèvres.
Oui.
Et là, ça a été le résultat de ces affaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Ottavioli était très confiant, c'est qu'il savait qu'il avait deux outils de levier extraordinaires.
Deux gars qui se connaissaient.
Des gens qui se connaissaient. Ce qui n'est plus le temps maintenant, la BRI est restée au 36, alors que la CRIM était au Bastion. Là,
ça change tout, ça.
Ah oui.
Alors, c'était aussi une époque, ça m'a toujours intéressé, où les commissaires avaient des noms. C'est-à-dire, on disait, le commissaire Ottavioli a interpellé le commissaire Cancès, le commissaire Moreas, qui est aussi une grande vedette de cette époque, le commissaire Biraud, etc. Aujourd'hui, personne ne connaît plus le nom des commissaires.
Non, on connaît plus les magistrats que les commissaires.
Ouais. C'est bizarre.
Ils ont pris la place.
Ils ont pris la place, vous diriez, vous?
Oui, tout à fait.
La vedette, c'est le magistrat.
Exactement.
Le magistrat instructeur.
Exactement.
À l'époque, on ne savait même pas comment il s'appelait, le magistrat. Ouais. Vous avez été une vedette.
Non.
Si, on disait qu'on cesse, on connaissait votre nom, quoi. Vous étiez le Maigret, le successeur de Maigret.
Si on veut.
Vous avez une nostalgie de cette époque, parce que vous avez été patron du 36 après, et vous n'êtes à la retraite que depuis pas très longtemps, depuis 2005, c'est ça?
Retraite police, 98.
98. Oui. Donc vous avez vu la police évoluer dans ses méthodes. Est-ce que malgré tout, cette époque avait ses vertus? Cette époque où les flics bricolaient peut-être un peu plus? Mais il y avait une part de romantisme dans ce métier.
Oui, et on était peut-être plus disponible. Je ne veux pas critiquer nos collègues à l'heure actuelle parce qu'ils travaillent dans des conditions dures, difficiles de plus en plus. Mais peut-être que je fais partie de nos générations. On était les générations de l'après-guerre. On en avait bavé un petit peu. Et faut dire ce qui est, la plupart d'entre nous, on était passionnés par ce job.
Donc vous y passiez 24 heures sur 24.
Voilà. Vous savez, le 31 décembre, je le dis quand je dis « merde, on dérouille », mais dans les secondes qui ont suivi, je le dis dans le livre, comme tous les collègues.
De ne pas faire ce fichu réveillon, quoi.
Voilà.
Du coup, le jour où ça s'arrête, qu'est-ce que ça fait? Bon, après, vous avez été responsable de la sécurité, comme beaucoup d'anciens flics, chez Bolloré, mais malgré tout, c'est une autre vie. C'est-à-dire que vous avez donné 100% de votre vie à ce métier, et puis d'un coup, on vous dit « bon, ben c'est la retraite, au revoir, monsieur ». Ça doit être un vide terrible.
Si vous voulez, la question qui est souvent posée, comment vous avez tourné la page?
Ouais.
On ne tourne pas la page. Et tous les jours que Dieu fait, lorsque vous écoutez la radio, la télé, vous lisez les journaux, il n'y a pas un jour où le 36 ne soit pas évoqué. On ne dit pas la criminelle du 36 après une affaire, non. On dit, à l'époque, on disait Strauss-Kahn est entendu au château des Rentiers.
Oui.
Ce n'est pas le 36, mais c'est le 36, la sous-direction des affaires économiques et financières.
Oui.
On dit, il y a un crime à Nanterre. Les SDPJ 92 est saisi de l'affaire. C'est le 36, c'est toujours. Ce qui veut dire que tous les jours, on ne peut pas oublier cette vie-là. Et puis, je gardais des contacts avec, bien sûr, comme tous les...
Quelques collègues, toujours en exercice.
Oui, il en reste. En exercice.
Je veux dire, avec les anciens.
Je les retrouve tous les ans, en tant qu'ancien directeur, je fais partie du jury du Bruit de Quai des Orfèvres, je les retrouve au moins.
Et alors, c'est plus 36 Quai des Orfèvres.
Ah, bah oui.
Ça, quand même, évidemment, c'est une rupture.
Oui, 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 c'est sûr. Bah, enfin, les conditions, quand ils travaillent dans de meilleures conditions
au Batignolles, aujourd'hui, au Palais de Justice. Collé au Palais de Justice. Merci infiniment, Claude Cancès, d'abord d'avoir écrit ce livre. Si vous avez quelques loisirs, écrivez-en d'autres. Pour nous raconter quelques histoires que vous
avez. Mon éditeur,
il est chaud.
Il pense.
Ce livre s'appelle L'affaire Hazan. Vous l'avez coécrit avec Jean-Pierre Biraud et vous le trouverez aux éditions Mareuil.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.